Jane Eyre, chapitre 12. La manière calme et douce dont j'avais été reçue à Thornfield semblait m'annoncer une existence facile, et cette espérance fut loin d'être déçue lorsque je connus mieux le château et ses habitants. Madame Fairfax était en effet ce qu'elle m'avait paru tout d'abord, une femme douce, complaisante, suffisamment instruite et d'une intelligence ordinaire. Mon élève était une enfant pleine de vivacité. Comme on l'avait beaucoup gâtée, elle était quelquefois capricieuse. Heureusement, elle était entièrement confiée à mes soins, et personne ne s'opposait à mes plans d'éducation, de sorte qu'elle renonça bientôt à ses petits accès d'entêtement et devint docile. Elle n'avait aucune aptitude particulière, aucun trait de caractère, aucun développement de sentiment ou de goût qui pût l'élever d'un pouce au-dessus des autres enfants. Mais elle n'avait aucun défaut qui pût la rendre inférieure à la plupart d'entre eux. Elle faisait des progrès raisonnables et avait pour moi une affection vive, sinon très profonde. Ses efforts pour me plaire, sa simplicité, son gai babillage m'inspirèrent un attachement suffisant pour nous contenter l'une et l'autre. Ce langage sera sans doute trouvé bien froid par les personnes qui affichent de solennelles doctrines sur la nature évangélique des enfants et sur la dévotion idolâtre que devraient toujours leur vouer ceux qui sont chargés de leur éducation. Mais je n'écris pas pour flatter l'égoïsme des parents ou pour servir d'écho à l'hypocrisie. Je dis simplement la vérité. J'éprouvais une consciencieuse sollicitude pour les progrès et la conduite d'Adèle, pour sa personne, une tranquille affection, de même que j'aimais Madame Fairfax en raison de ses bontés, et que je trouvais dans sa compagnie un plaisir proportionné à la nature de son esprit et de son caractère. Me blâmera qui voudra, lorsque j'ajouterai que de temps en temps, quand je me promenais seul, quand je regardais à travers les grilles de la porte la route se déroulant devant moi, ou quand, voyant Adèle jouer avec sa nourrice et Madame Fairfax occupée dans l'office, je montais les trois étages et j'ouvrais la trappe pour arriver à la terrasse, quand enfin mes yeux pouvaient suivre les champs, les montagnes, la ligne sombre du ciel, je désirais ardemment un pouvoir qui me fît connaître ce qu'il y avait derrière ses limites, qui me fît apercevoir ce monde actif, ces villes animées dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais vues. Alors, je souhaitais plus d'expérience, des rapports plus fréquents avec les autres hommes et la possibilité d'étudier un plus grand nombre de caractères que je ne pouvais le faire à Thornfield. J'appréciais ce qu'il y avait de bon dans Madame Fairfax et dans Adèle, mais je croyais à l'existence d'autres bontés différentes et plus vives. Ce que je pressentais, j'aurais voulu le connaître. Beaucoup me blâmeront sans doute. On m'appellera « nature mécontente ». Mais je ne pouvais faire autrement. Il me fallait du mouvement. Quelquefois, j'étais agitée jusqu'à la souffrance, alors mon seul soulagement était de me promener dans le corridor du troisième, et au milieu de ce silence et de cette solitude, les yeux de mon esprit erraient sur toutes les brillantes visions qui se présentaient devant eux. Et certes, elles étaient belles et nombreuses. Ces pensées gonflaient mon cœur, mais le trouble qui le soulevait lui donnait en même temps la vie. Cependant, je préférais encore écouter un conte qui ne finissait jamais, un conte qu'avait créé mon imagination et qu'elle me redisait sans cesse en la remplissant de vie, de flamme et de sentiments, toutes ces choses que j'avais tant désirées, mais que ne me donnait pas mon existence actuelle. Il est vain de dire que les hommes doivent être heureux dans le repos. Il leur faut de l'action, et s'il n'y en a pas autour d'eux, ils en créeront. Des millions sont condamnés à une vie plus tranquille que la mienne, et des millions sont dans une silencieuse révolte contre leur sort. Personne ne se doute combien de rébellions, en dehors des rébellions politiques, fermentent dans la masse d'êtres vivants qui peuplent la terre. On suppose les femmes généralement calmes, mais les femmes sentent comme les hommes, elles ont besoin d'exercer leurs facultés, et comme à leurs frères, il leur faut un champ pour leurs efforts. De même que les hommes, elles souffrent d'une contrainte trop sévère, d'une immobilité trop absolue. C'est de l'aveuglement à leurs frères plus heureux de déclarer qu'elles doivent se borner à faire des puddings, à tricoter des bas, à jouer du piano et à broder des sacs. Quand j'étais ainsi seule, il m'arrivait souvent d'entendre le rire de Grace Poole. Toujours le même rire, lent et bas, qui la première fois m'avait fait tressaillir. J'entendais aussi son étrange murmure, plus étrange encore que son rire. Il y avait des jours où elle était silencieuse et d'autres où elle faisait entendre des sons inexplicables. Quelquefois, je la voyais sortir de sa chambre tenant à la main une assiette ou un plateau, descendre à la cuisine et revenir. Ô romanesque lecteur, permettez-moi de vous dire la vérité entière, portant un pot de chambre. Son apparence aurait glacé la curiosité la plus excitée par ses cris bizarres. Elle avait les traits durs, et rien en elle ne pouvait vous attirer. Je tâchais plusieurs fois d'entrer en conversation avec elle, mais elle n'était pas causante. Généralement, une réponse monosyllabique coupait court à tout entretien. Les autres domestiques, John et sa femme Léa, chargés de l'entretien de la maison, et Sophie, la nourrice française, étaient bien, sans pourtant avoir rien de remarquable. Je parlais souvent français avec Sophie, et quelquefois je lui faisais des questions sur son pays natal. Mais elle n'était propre ni à raconter ni à décrire. D'après ses réponses vagues et confuses, on eût dit qu'elle désirait plutôt vous voir cesser que continuer l'interrogatoire. Octobre, novembre et décembre se passèrent ainsi. Une après-midi de janvier, Madame Fairfax me demanda un jour de congé pour Adèle parce qu'elle était enrhumée. Adèle appuya cette demande avec une ardeur qui me rappela combien les jours de congé m'étaient précieux lorsque j'étais enfant. Je le lui accordai donc, pensant que je ferais bien de ne pas me montrer exigeante sur ce point. C'était une belle journée, calme, bien que très froide. J'étais fatiguée d'être restée assise tranquillement dans la bibliothèque pendant une toute longue matinée. Madame Fairfax venait d'écrire une lettre. Je mis mon chapeau et mon manteau et je proposai de la porter à la poste de Hay, distante de 2 miles. Ce devait être une agréable promenade. Lorsqu'Adèle fut confortablement assise sur sa petite chaise au coin du feu de Madame Fairfax, je lui donnai sa belle poupée de cire que je gardais ordinairement enveloppée dans un papier d'argent et un livre d'histoire pour varier ses plaisirs. « Revenez bientôt, ma bonne amie, ma chère demoiselle Jeannette, » me dit-elle. Je l'embrassai et je partis. Le sol était dur, l'air tranquille et ma route solitaire. J'allai vite jusqu'à ce que je me fusse réchauffée et alors je me mis à marcher plus lentement pour mieux jouir et pour analyser ma jouissance. 3 heures avaient sonné à l'église au moment où je passais près du clocher. Ce moment de la journée avait un grand charme pour moi, parce que l'obscurité commençait déjà et que les pâles rayons du soleil descendaient lentement à l'horizon. J'étais à 1 mile de Fontfield, dans un sentier connu pour ses roses sauvages en été et ses noisettes, ses mûres en automne, et qui même alors possédait encore quelques-uns des fruits rouges de l'aubépine. Mais en hiver, son véritable attrait consistait dans sa complète solitude et dans son calme dépouillé. Si une brise venait à s'élever, on ne l'entendait pas, car il n'y avait pas un hou, pas un seul de ces arbres dont le feuillage se conserve toujours vert et fait siffler le vent. L'aubépine flétrie et les buissons de noisetiers étaient aussi muets que les pierres blanches placées au milieu du sentier pour servir de chaussée. Au loin, l'œil ne découvrait que des champs où le bétail ne venait plus brouter, et si de temps en temps on apercevait un petit oiseau brun s'agitant dans les haies, on croyait voir une dernière feuille morte qui avait oublié de tomber. Le sentier allait en montant jusqu'à Hay. Arrivé au milieu, je m'assis sur les degrés d'un petit escalier conduisant dans un champ. Je m'enveloppai dans mon manteau et je cachai mes mains dans mon manchon de façon à ne pas sentir le froid, bien qu'il fût très vif, ainsi que l'attestait la couche de glace recouvrant la chaussée, au milieu de laquelle un petit ruisseau gelé pour le moment avait débordé quelques jours auparavant après un rapide dégel. De l'endroit où j'étais, j'apercevais Fontfield. Le château gris et surmonté de créneaux était l'objet le plus frappant de la vallée. À l'est, on voyait s'élever les bois de Fontfield et les arbres où nichaient les corneilles. Je regardai ce spectacle jusqu'à ce que le soleil descendît dans les arbres et disparut entouré de rayons rouges. Alors je me tournai vers l'ouest. La lune se levait sur le sommet d'une colline, pâle encore et semblable à un nuage, mais devenant de moment en moment plus brillante. Elle planait sur Hay, qui, à moitié perdu dans les arbres, envoyait une fumée bleue de ses quelques cheminées. J'en étais encore éloigné d'un mille, et pourtant, au milieu de ce silence complet, les bruits de la vie arrivaient jusqu'à moi. J'entendais aussi des murmures de ruisseaux. Dans quelle vallée, à quelle profondeur, je ne pouvais le dire. Mais il y avait bien des collines au-delà de Hay, et sans doute bien des ruisseaux devaient y couler. La tranquillité de cette soirée trahissait également les courants les plus proches et les plus éloignés. Un bruit soudain vint bientôt mettre fin à ces murmures, si clairs, bien qu'éloignés. Un piétinement, un son métallique, effaça le doux bruissement des eaux, de même que dans un tableau, la masse solide d'un rocher ou le rude tronc d'un gros chêne profondément enraciné au premier plan empêche d'apercevoir au loin les collines azurées, le lumineux horizon et les nuages qui mélangent leurs couleurs. Le bruit était causé par l'arrivée d'un cheval le long de la chaussée. Les sinuosités du sentier me le cachaient encore, mais je l'entendais approcher. J'allais quitter ma place, mais comme le chemin était très étroit, je restais pour le laisser passer. J'étais jeune alors, et mon esprit était rempli de toutes sortes de créations brillantes ou sombres. Les souvenirs des contes de nourrice étaient ensevelis dans mon cerveau, au milieu d'autres ruines. Cependant, lorsqu'ils venaient à sortir de leur décombre, ils avaient plus de force et de vivacité chez la jeune fille qu'ils n'en avaient eu chez l'enfant. Lorsque je vis le cheval approcher au milieu de l'obscurité, je me rappelais une certaine histoire de Bessie où figurait un esprit du nord de l'Angleterre appelé Guy Trash. Cet esprit, qui apparaissait sous la forme d'un cheval, d'un mulet ou d'un gros chien, hantait les routes solitaires et s'avançait quelquefois vers les voyageurs attardés. Le cheval était prêt, mais on ne le voyait pas encore, lorsque, outre le piétinement, j'entendis du bruit sortir de la haie et je vis se glisser le long des noisetiers un gros chien qui, grâce à son pelage noir et blanc, ne pouvait être confondu avec les arbres. C'était justement une des formes que prenait le gaitrage de Bessie. J'avais bien, en effet, devant les yeux un animal semblable à un lion, avec une longue crinière et une tête énorme. Il passa pourtant assez tranquillement devant moi, sans me regarder avec des yeux étranges, comme je m'y attendais presque. Le cheval suivait. Il était grand et portait un cavalier. Cet homme venait de briser le charme, car jamais être humain n'avait monté Gaitrash. Il était toujours seul, et d'après mes idées, les lutins pouvaient bien habiter le corps des animaux, mais ne devaient jamais prendre la forme vulgaire d'un être humain. Ce n'était donc pas un Gaitrash, mais simplement un voyageur suivant le chemin le plus court pour arriver à Millcote. Il passa, et je continuai ma route. Mais au bout de quelques pas, je me retournai, mon attention ayant été attirée par le bruit d'une chute et par cette exclamation « Que diable faire maintenant ?» Monture et cavalier étaient tombés. Le cheval avait glissé sur la glace de la chaussée. Le chien revint sur ses pas. En voyant son maître à terre et en entendant le cheval souffler, il poussa un aboiement dont sa taille justifiait la force et qui fut répété par l'écho des montagnes. Il tourna autour du cavalier et courut à moi. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Il n'avait pas moyen d'appeler d'autre aide. Je le suivis et je trouvai le voyageur s'efforçant de se débarrasser de son cheval. Ses efforts étaient si vigoureux que je pensai qu'il ne devait pas s'être fait beaucoup mal. Néanmoins, m'approchant de lui, « Êtes-vous blessé, monsieur ? » demandai-je. Il me sembla l'entendre jurer. Pourtant, je n'en suis pas bien certaine. Toujours est-il qu'il grommela quelque chose, ce qui l'empêcha de me répondre tout de suite. « Que puis-je faire pour vous ? » demandai-je de nouveau. « Tenez-vous de côté, » me répondit-il en se plaçant d'abord sur ses genoux puis sur ses pieds. Alors commença une opération difficile, bruyante, accompagnée de tels aboiements que je fus obligé de m'écarter un peu. Mais je ne voulus pas partir sans avoir vu la fin de l'aventure. Elle se termina heureusement. Le chien fut apaisé par un « Couchez, pilote !» Le voyageur voulut marcher pour voir si sa jambe et son pied étaient en bon état, mais cet essai lui fit probablement mal, car après avoir tenté de se lever, il se rassit promptement sur une des marches de l'escalier. Il paraît que ce jour-là, j'étais d'humeur à être utile, ou du moins complaisante, car je m'approchai de nouveau et je dis « Si vous êtes blessé, monsieur, Je puis aller chercher quelqu'un à Fontfield ou à Hay.
Merci, cela ira. Je n'ai pas d'os brisé, c'est seulement une foulure. »
Il voulut de nouveau essayer de marcher, mais il poussa involontairement un cri. Le jour n'était pas complètement fini et la lune devenait brillante. Je pus voir l'étranger. Il était enveloppé d'une redingote à collet de fourrure et à boutons d'acier. Je ne pus pas remarquer les détails, mais je vis l'ensemble. Il était de taille moyenne et avait la poitrine très large, la figure sombre, les traits durs, le front soucieux. Ses yeux et ses sourcils, contractés, indiquaient une nature généralement emportée et mécontente pour le moment. Il n'était plus jeune et n'avait pourtant pas encore atteint l'âge mûr. Il pouvait avoir 35 ans. Sa présence ne m'effraya nullement et m'intimida à peine. Si l'étranger avait été un beau jeune homme, un héros de roman, je n'aurais pas osé le questionner encore malgré lui et lui offrir des services qu'il ne me demandait pas. Je n'avais jamais parlé à un beau jeune homme. Je ne sais si j'en avais vu un. Je rendais un hommage théorique à la beauté, à l'élégance, à la galanterie et au charme fascinant. Mais si jamais j'eusse rencontré toutes ces qualités réunies chez un homme, un instinct m'aurait averti que je ne pouvais pas sympathiser avec lui, et que lui ne pouvait pas sympathiser avec moi. Je me serais éloigné de lui comme on s'éloigne du feu, des éclairs, enfin de tout ce qui est antipathique, quoique brillant. Si même cet étranger m'eût souri, s'il se fût montré aimable à mon égard, s'il m'eût gaiement remercié pour mes offres de service, j'aurais continué mon chemin sans être le moins du monde tenté de renouveler mes questions. Mais la rudesse du voyageur me mit à mon aise, et lorsqu'il me fit signe de partir, je restai en lui disant « Mais monsieur, je ne puis pas vous abandonner à cette heure dans ce sentier solitaire avant de vous avoir vu en état de remonter sur votre cheval. » Il me regarda et reprit aussitôt « Il me semble qu'à cette heure, vous-même devriez être chez vous, si vous demeurez dans le voisinage. D'où venez-vous ? »
« De la vallée, et je n'ai nullement peur d'être tard dehors quand il y a clair de lune. Je courrai avec plaisir jusqu'à Hay, si vous le souhaitiez. Du reste, je vais y jeter une lettre à la poste. »
« Vous dites que vous venez de la vallée ? Demeurez-vous dans cette maison surmontée de créneaux ?» me demanda-t-il en indiquant Fontfield, que la lune éclairait de ses pâles rayons. Le château ressortait en blanc sur la forêt qui, par sa masse sombre, formait un contraste avec le ciel de l'ouest.
« Oui, monsieur. »
« À qui appartient cette maison ?»«
À monsieur Rochester. »
« Connaissez-vous monsieur Rochester ?»«
Non, je ne l'ai jamais vu. »
« Il ne demeure donc pas là ?»«
Non. »
« Pourriez-vous me dire où il est ?»«
Non, monsieur. »
« Vous n'êtes certainement pas une des servantes du château. Vous êtes... »
Il s'arrêta et jeta les yeux sur ma toilette qui, comme toujours, était très simple. Un manteau de mérinos noir et un chapeau de castor que n'aurait pas voulu porter la femme de chambre d'une lady. Il semblait embarrassé de savoir qui j'étais. Je vins à son secours. « Je suis la gouvernante. »«
Ah, la gouvernante, » répéta-t-il. « Le diable m'emporte si je ne l'avais pas oublié, la gouvernante. »
Et je fus de nouveau obligé de soutenir son examen. Au bout de 2 minutes, il se leva. Mais quand il essaya de marcher, sa figure exprima la souffrance. « Je ne puis pas vous charger d'aller chercher du secours, » me dit-il, « mais si vous voulez avoir la bonté de m'aider, vous le pourrez. »«
Je ne demande pas mieux, monsieur. »
« Avez-vous un parapluie dont je puisse me servir en place de bâton ?»«
Non. » »«
Alors tâchez de prendre la bride du cheval et de me l'amener. Vous n'avez pas peur, je pense. »
Si j'avais été seule, j'aurais été effrayée de toucher à un cheval. Cependant, comme on me le commandait, j'étais toute disposée à obéir. Je laissai mon manchon sur l'escalier et je m'avançai vers le cheval. Mais c'était un fougueux animal et il ne voulut pas me laisser approcher de sa tête. Je fis effort sur effort, mais en vain. J'avais même très peur en le voyant frapper la terre de ses pieds de devant. Le voyageur, après nous avoir regardés quelque temps, se mit enfin à rire. « Je vois, dit-il, que la montagne ne viendra pas à Mahomet. Ainsi, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aider Mahomet à aller à la montagne.
Venez ici, je vous prie. » Je m'approchai. « Excusez-moi, continua-t-il, la nécessité me force à me servir de vous. » Il posa une lourde main sur mon épaule, et s'appuyant fortement, il arriva jusqu'à son cheval, dont il se rendit bientôt maître. Puis il sauta sur sa selle, en faisant une affreuse grimace, car cet effort avait ravivé sa douleur. « Maintenant, dit-il en soulageant sa lèvre inférieure de la rude morsure qu'il lui infligeait, « maintenant, donnez-moi ma cravache qui est là, sous la haie. » Je la cherchai et la trouvai. « Je vous remercie. À présent, portez vite votre lettre à Hay et revenez aussi promptement que possible. » Il donna un coup d'éperon au cheval qui rua, puis partit au galop. Le chien le suivit et tous trois disparurent, comme la bruyère sauvage que le vent des forêts emporte en tourbillon. Je repris mon manchon et je continuai ma route. L'aventure était terminée. Ce n'était pas un roman, elle n'avait même rien de bien intéressant. Mais elle avait changé une des heures de ma vie monotone. On avait eu besoin de moi, on m'avait demandé un secours que j'avais accordé. J'étais contente, j'avais fait quelque chose. Bien que cet acte puisse paraître trivial et indifférent, j'avais pourtant agi, et avant tout, j'étais fatiguée d'une existence passive. Et puis, une nouvelle figure était comme un nouveau portrait dans ma galerie. Elle différait de toutes les autres, et d'abord parce que c'était celle d'un homme, ensuite parce qu'elle était sombre et forte. Je l'avais devant les yeux lorsque j'entrai à Hay et que je jetai ma lettre à la poste. Et je la voyais encore en descendant la colline qui devait me ramener à Thornfield. Arrivé devant l'escalier, je m'arrêtai. Je regardai tout autour de moi et j'écoutai, me figurant que j'allais entendre le pas d'un cheval sur la chaussée et voir un cavalier enveloppé d'un manteau suivi d'un chien de Terre-Neuve semblable à un gaitrache. Je ne vis qu'une haie et un saule émondé par le haut, qui se tenait droit comme pour recevoir les rayons de la lune. Je n'entendis qu'un vent qui sifflait au loin dans les arbres de Thornfield, et jetant un regard vers l'endroit d'où partait le murmure, j'aperçus une lumière à l'une des fenêtres du château. Je me rappelai alors qu'il était tard, et je hâtai le pas. Je n'aimais pas le moment où il fallait rentrer à Thornfield. Franchir les portes du château, c'était reprendre mon immobilité. Traverser la salle silencieuse, monter le sombre escalier, entrer dans ma petite chambre isolée et passer une longue soirée d'hiver avec la tranquille Madame Fairfax, avec elle seule, n'y avait-il pas là de quoi détruire la faible excitation causée par ma promenade? N'était-ce pas jeter sur mes facultés les chaînes invisibles d'une existence trop monotone, d'une existence dont je ne pouvais même pas apprécier les avantages? Il m'aurait fallu les orages d'une vie incertaine et pleine de luttes, une expérience rude et amère, pour me faire aimer le milieu paisible dans lequel je vivais. Je désirais le combat, comme l'homme fatigué d'être resté trop longtemps assis sur un siège commode, désire une longue promenade, et mon besoin d'agir était tout aussi naturel que le sien. Je flânais devant la porte, je flânais devant la prairie, je me promenais sur le pavé. Les contrevents de la porte vitrée étaient fermés. Je ne pouvais pas voir l'intérieur de la maison. Mes yeux et mon esprit semblaient du reste vouloir s'éloigner de cette caverne grise aux sombres voûtes pour se tourner vers le beau ciel sans nuages qui planait au-dessus de ma tête. La lune montait majestueusement à l'horizon, laissant bien loin derrière elle le sommet des collines qu'elle avait d'abord éclairées. Elle semblait aspirer au sombre zénith, perdue dans les distances infinies. Les tremblantes étoiles qui suivaient sa course agitaient mon cœur et brûlaient mes veines. Mais il ne faut pas beaucoup pour nous ramener à la réalité. L'horloge sonna, cela suffit. Je détournai mes regards de la lune et des étoiles. J'ouvris une porte de côté et j'entrai. La grande salle n'était pas sombre, bien que la lampe de bronze ne fût pas encore allumée. Elle était éclairée, ainsi que les premières marches de l'escalier. Par une lueur provenant de la salle à manger, dont la porte ouverte à deux battants laissait voir une grille où brûlait un bon feu. La lumière du feu permettait d'apercevoir des tentures rouges, des meubles bien brillants, et un groupe réuni autour de la cheminée. À peine l'avais-je entrevue, et à peine avais-je entendu un mélange de voix parmi lesquelles je distinguais celle d'Adèle, que la porte se referma. Je me dirigeai promptement vers la chambre de Madame Fairfax. Il y avait du feu, mais ni lumière, ni Dame Fairfax. À sa place, un gros chien noir et blanc, tout semblable au Guy Trash, était assis sur le tapis et regardait le feu avec gravité. Je fus tellement frappé de cette ressemblance que je m'avançai vers lui en disant « Pilot ?» L'animal se leva et vint me flairer. Je le caressai, il remua sa grande queue, il avait l'air d'un chien abandonné, et je me demandai d'où il pouvait venir. Je sonnai, car j'avais besoin de lumière, et je désirais savoir également quel était ce visiteur. Léa entra. « Quel est ce chien ? » demandai-je. « Il est venu avec le maître. »«
Avec qui ?»«
Avec le maître, Monsieur Rochester, qui vient d'arriver. »«
En vérité ?
Et Madame Fairfax est avec lui ?»«
Oui, ainsi que Mademoiselle Adèle. »
Et John est allé chercher un médecin, car il est arrivé un accident à notre maître. Son cheval est tombé, et M. Rochester a eu le pied foulé.
Est-ce que son cheval n'est pas tombé dans le sentier de Hay ?
Oui, il a glissé en descendant la colline.
Ah !
Apportez-moi une lumière, Léa. Léa revint bientôt, suivie de Madame Fairfax, qui me répéta la nouvelle, ajoutant que M. Carter, le médecin, était arrivé, et qu'il était avec M. Rochester. Puis elle alla donner des ordres pour le thé, et moi, je montai dans ma chambre pour me déshabiller.